Le peuple de la mer. Troisième partie, chapitre 7. Le temps passa. Petit Pierre prit de l'âge et devint un gars robuste et bien nourri. Chez Zacharie, il avait remplacé en qualité d'ouvrier Firmin, parti sur le trimard. Et la Bernard l'admirait avec cette joie de femme qu'ont les mères à sentir l'homme s'éveiller dans leurs enfants. Elle le gâtait de plus en plus d'ailleurs, lui cuisinait des petits plats et l'entretenait abondamment de maillots confortables. Elle avait refait son matelas en mêlant de la plume à la laine. Et elle ne le nommait plus Petit Pierre, mais le gars, parce qu'il était pour elle le fils unique en quelque sorte, le seul qui ait bien voulu rester près d'elle et dont la présence devenait l'habitude essentielle de sa vie. Florent avait rengagé dans la flotte après ses 4 ans de service, en dépit des représentations de ses parents. « Je suis mieux là qu'à pêcher la sardine, » disait-il. « Je gagne une retraite sans me fouler. Alors, la terre, je sais point travailler ça. » La mère l'avait traité de fils ingrat en faisant mine de le chasser. Bernard l'excusait, au fond, tout en protestant pour sa bonne femme. Seul, Petit Pierre l'approuvait et l'enviait au souvenir de la journée de Saint-Nazaire, toute remplie de soleil, de joutes, de régates, où la mer était couverte de navires formidables. Sans négliger l'atelier, Petit Pierre naviguait maintenant le soir et le dimanche, avec Cucassé, dont il était devenu le grand ami. Pas de régate dans la baie où il n'assista, pas de nouvelle barque au port qu'il n'accourut voir. Et si l'on avait besoin d'un coup de main sur un sloop, il était toujours là, les bras offerts. Exalt à la maison, aux heures des repas, il ne s'y attardait point, malgré les prévenances. Il disait, sans humeur, par plaisanterie, qu'il n'était plus d'âge à rester dans les jupes. Et Bernard clignait de l'œil d'un air entendu en déclarant, « Ah, dame, c'est la jeunesse !» Il savait que Petit Pierre commençait à reluquer les jolies filles qui sortent des usines à midi et à 6 heures, en cotillon court, avec une pèlerine de laine sur les épaules. Clovis les attirait à l'atelier en roucoulant des romances ou en cornant, en voix de tête, des chansons vendéennes bien salées qu'elles écoutaient sans gêne, avec du rire plein les yeux. Et puis, l'on descendait au port en s'aguichant à force de propos raides où le geste de l'amour servait indéfiniment de plaisanterie. Petit Pierre, qui ne chantait point, tirait des succès de sa prestance et de ses muscles. Il avait au fait, en jouant, d'empoigner une fille et de l'enlever comme une plume, tandis qu'elle se roulait de joie entre les mains puissantes. C'était là son triomphe, dont il abusait un peu, surtout avec Cécile, la fille à pelot, le douanier. Elle se dérobait simplement pour rendre la poursuite plus haletante, l'emprise plus serrée. Elle avait de l'inclination pour Petit Pierre, qui la distinguait parmi ses compagnes. Brune, avec de longs cils, un peu boulotte, fraîche et ferme de chair, elle portait du sang sur les joues comme des fleurs. Plusieurs fois, Petit Pierre voulut l'emmener en canot avec Cucassé, mais le boiteux s'y opposait toujours violemment, parce qu'il détestait les filles moqueuses qui lui rendent plus obsédants ses désirs. Petit Pierre aurait aimé réunir ses deux joies, Cécile et le bateau, car lorsque la mer était haute, à ses moments de loisir, il ne se sentait pas toujours la force de perdre une heure de canotage pour attendre à l'atelier la sortie des filles. Cécile l'enraillait avec une pointe de dépit. Un beau galant que j'ai là. Ça peut seulement point se tenir dès que ça voit un canot. Un canot, rétorquait Petit Pierre. Ça fait ben ce que je veux. Ça se défend point comme toi dès qu'on approche. Ils riaient tous les deux, et comme ils étaient seuls dans le chemin de Luzéronde, elle se laissa saisir à belles mains et embrasser à pleine bouche, pour la première fois. Ils se détachèrent l'un de l'autre, tout penauds et rouges. Petit Pierre s'étonnait de son geste irréfléchi. Elle était émue, délicieusement et un peu honteuse. Une timidité se dévoilait au fond de leur hardiesse. Ils avaient l'impression vague d'être maintenant autre chose que des camarades, et ils ne s'embrassèrent pas une autre fois ce soir-là. Mais les jours suivants, petit Pierre s'en fut lui-même chercher Cécile à l'usine, et, sans s'attarder au bavardage de la sortie, ils s'éloignèrent vers les dunes de la Corbière où le jonc marin pique les mollets. Ils marchaient d'un pas égal, les bras à la taille, en écrasant sous leurs sabots des œillets de falaise roses et parfumées. Devant eux s'étendait la mer engrisaillée par le crépuscule d'été, si long après le coucher du soleil, et qui est comme le demi-sommeil du jour. Le feu du pilier palpitait sur l'ombre de l'îlot, et le vent et le doux grésillement de la vague dans les roches seuls paraissaient vivre. Ils s'asseyaient côte à côte. Cécile se laissait aller dans les bras du jeune homme, la joue tout contre sa chemise qui sentait le sapin et la sueur. Ils se câlinaient, s'embrassaient. Mais petit Pierre lâchait parfois au milieu de leur jeu un canot qui nage, un navire dans le chenal, parce qu'il écoutait la mer retentissant d'un bruit de rame ou apercevait un feu. Au courant de l'aventure, le père Bernard se réjouit. Le jour qu'il l'apprit, il rentra prévenir sa bonne femme. « Tu sais, le gars fréquente la Cécile, la fille à Pelot. Tant qu'ils feront point le mal, crains rien. Ça doit se garder, cette petite boulotte. Mais elle gardera aussi le gars, tu comprends ?» La mère Bernard sourit, hocha la tête et songea au joli couple que devait faire son beau gars et la Cécile, déjà formée comme une vraie femme. Ils reparlèrent de l'affaire de temps à autre et, petit à petit, risquèrent des projets et arrangèrent un mariage. Pourquoi pas, si la petite était sérieuse? Quant à Pelot, Bernard en répondait pour l'avoir commandé. C'était franc comme l'osier et doux comme un mouton. Et puis, il possédait du bien, les deux prés derrière l'école. La mère pensait au bonheur de garder le gars marié près d'elle. Il continuerait à habiter sa chambre, là, derrière la cloison, avec sa femme qui remplacerait un enfant perdu. Et il y aurait de la quiétude et de la joie dans la maison, autour des vieux, jusqu'à leur mort. Alors, un soir, après la soupe, pendant que petit Pierre se brûlait avec une pomme de terre fumante, le père lui décocha en riant. « Eh bien, ça marche, les amours ?» Il le prit gaiement et répondit. « Oh, ça marche !» Et tout de suite, Bernard parla de Cécile, des rendez-vous, des promenades à la Corbière, fier d'étonner son fils par ses renseignements. « Ah, mon gaillard, ça voit clair, un papa !» Il rit bonassement avec sa femme, de la mine un peu contrainte du gars, mais déjà elle invitait. « Amène-la donc ici, ta Cécile, faut faire connaissance !»« Bah !» fit Bernard, « les amoureux aiment la solitude. Hein, va donc, mon gars, va donc !» Petit Pierre avait l'habitude de sortir après dîner, mais non, comme le croyait son père, pour retrouver Cécile. Il descendait chez Zacharie, où le vieil ourtin l'attendait en compagnie d'un verre de rhum et de Clémotte, qui fumait des cigarettes. Il ne jouait pas aux cartes et ne buvait guère. Clémotte se plaignait de rhumatisme qui nouait plus étroitement ses articulations et l'obligeait à se traîner sur deux cannes, comme à quatre pattes. Ourtin, toujours solide, redisait inépuisablement ses voyages. Alors s'évoquent les longs cours, où 100 jours à la suite, Les grands navires couverts de toile charruent les océans de toute la force de leur masse. La vie de bord, parfois monotone jusqu'à la somnolence, parfois surmenée jusqu'à l'épuisement. Les nuits paisibles, où, dans le murmure du sillage, le bateau court vers les étoiles. Les nuits de tempête qui font geindre les mâtures ainsi qu'un homme qui lutte. Et puis, c'est la mer d'acier des tropiques, plate et chauffée à blanc. La mer hypocrite d'Océanie, riche du reflet de ses fonds. La mer battue des caps du monde, hantée par les pétrels. La vaste mer du large, d'un vert dru, qui roule indéfiniment ses longues houles d'un rythme égal, soumise au vent. Tout cela s'élève en mirage des récits du gabier, domine les incidents auxquels il s'attache, pêche aux requins, aux malamocs goulus que l'on prend à la ligne, rafle de saumon dans les estuaires d'Amérique, capture de poissons étranges, coffre, marteau, bourse, lune, dont il se glorifie d'avoir mangé. Coup de mauvais temps, naufrage et bordée formidable dans les ports du globe où les équipages se coltaient après boire parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Un grand souffle de vie libre, brutal, féroce, un grand souffle chargé de salure passe entre les trois hommes et les exalte sous la lampe fumeuse. Clémotte redit l'histoire de la femme qu'il échangea contre deux pots de graisse sous Bornéo en agitant ses mains tortes. Ourtin reprend ses aventures et Petit Pierre les suit toujours, les yeux fixes, le menton dans les paumes. Il rentrait tard dans la nuit. Il écoutait la mer calme bruissant parmi les roches comme un millier de voix chuchoteuses. Il ne songeait pas aux frères partis qui n'étaient point revenus, mais il pensait un moment à Tonnerre, parce que cette nuit douce est de celles qui font parler le baigneur. Et seulement quand il se couchait, il se rappelait Cécile, qui dormait sans doute, chaude et appétissante. Malgré l'invitation de ses parents, Petit Pierre ne se pressa pas de l'amener et continua de l'avoir en cachette. Alors le brigadier, craignant que ça ne tourne à mal, s'en fut causé un brin avec le père de la fille. Et un beau soir en rentrant, Petit Pierre trouva Cécile installée entre ses vieux dans leur maison. Ils furent un peu gênés l'un et l'autre et se regardèrent sournoisement. Bernard jubilait en criant. « Un petit gars, tu t'attendais pas à celle-là !» Mais comme il demeurait tout gauche, face à face, sans parler, la mère les remua. « Eh ben, voyons, on se bise point ?» Ils s'embrassèrent tout de même à belles joues et se déridèrent. Cécile resta pour la soupe. On la plaça près de Petit Pierre et ils se firent du genou sous la table. Le brigadier leur décochait des œillades entendues et lâchait de ci de là des allusions familières. Et le soir, avant son départ, tout le monde embrassa Cécile avec de grandes démonstrations. Petit Pierre la reconduisit sur la route et ils cheminèrent côte à côte sans se toucher. Dans le premier moment de solitude, ils redevinrent timides vis-à-vis l'un de l'autre comme jadis, parce qu'ils sentaient changer leur situation respective. Ils avaient l'impression de n'être plus les mêmes et qu'une nouvelle connaissance était à faire. Pourtant, devant sa porte, Cécile se jeta au cou de Petit Pierre, qui l'étreignit et la baisa aux lèvres, longuement, sans rien dire. Il rentra tout ému, le sang chaud, et comme la mère Bernard qui l'attendait s'exclama « Elle est gentille, ça te fera une bonne femme !» Il pensa qu'elle avait raison de toute la force de son désir.